Donc voilà une image qui vous montre que, somme toute, il est assez facile, à partir de la forme de l'arcade dentaire, de reconnaître un humain d'un grand singe. Vous avez d'un côté une arcade en U, alors que vous avez des arcades paraboliques. Le grade australopithèque étant quelque chose qui pourrait paraître intermédiaire, mais qui est clairement déjà parabolique, clairement. Au niveau des canines, c'est beaucoup plus clair. Chez les grands singes, vous avez une canine en croc chez les mâles, une canine beaucoup plus réduite chez les femelles, mais elle reste pointue. Chez les australopithèques, comme chez l'homme moderne, vous voyez que ces canines sont complètement différentes. Ces canines deviennent, au lieu d'être pointues, elles deviennent incisiformes, elles ont la forme des incisives, et elles sont surtout à la même hauteur que les incisives. C'est-à-dire que ça permet des mouvements latéraux de la mâchoire inférieure, alors que chez les grands singes, les mouvements latéraux de la mâchoire inférieure sont bloqués, comme chez votre chien ou votre chat, de la même manière. La première prémolaire inférieure, qui est la P3, est unicuspide chez les grands singes, alors que chez les australopithèques et chez les humains postérieurs, préhumains et humains, cette première prémolaire est molarisée et a deux cuspides. Cela veut dire clairement que forme de l'arcade dentaire supérieure, morphologie de la canine, morphologie de la première prémolaire inférieure vous permettent, nous permettent, les paléontologues, de reconnaître d'un côté les grands singes, de l'autre côté les préhumains et humains. La station bipède, on en a déjà parlé. Bien, voilà cette station bipède chez un humain. Regardez les différences, notamment, par exemple, si vous prenez les courbures de la colonne vertébrale. Regardez chez l'humain, regardez chez le grand singe. Regardez tout ce qui concerne le membre inférieur dans l'un et l'autre. C'est complètement différent. De ça, on a déjà parlé aussi. Chez un humain, vous avez l'angle valgus avec, vous voyez, le genou qui revient dans l'axe parasagittal, alors que chez le grand singe, vous avez quelque chose qui est droit, complètement droit. Donc, sur le plan anatomique, sur le plan mécanique, il est parfaitement possible de reconnaître, quand vous avez un membre inférieur, de reconnaître s'il s'agit d'un membre inférieur qui est adapté à la locomotion bipède ou s'il s'agit d'un membre inférieur qui est adapté à la locomotion quadrupède. Ce type de locomotion, bien sûr, et ces différences anatomiques sont liés aux muscles fessiers. On en a déjà parlé. Les muscles fessiers médius et minimus, moyens et petits fessiers, devenant des adducteurs chez les humains. Vous voyez aussi, bien évidemment, la différence du bassin, ici chez un chimpanzé, ici chez un Homo sapiens. C'est pas possible, on ne peut pas se tromper. Il y a là des caractères anatomiques qui sont complètement différents. Au niveau de la base du crâne, il en est de même. Vous avez chez les humains une colonne vertébrale qui se met sous le crâne, avec un plan nucal qui est très vertical, très relevé, alors que chez les grands singes, la colonne vertébrale est plus postérieure, le plan nucal est plus incliné vers l'arrière, vous avez une anatomie du basicrâne, de la base du crâne, qui est complètement différente. Par exemple, à ce point de vue, le jeune homme que vous avez devant vous, là, Toumaï, a une base de crâne qui est complètement en accord avec ce que l'on connaît chez les hominidés plus récents que lui, par exemple les Australopithèques, dont on sait par ailleurs qu'ils sont bipèdes. Alors, c'est entendu, pour lui, c'est clair. On n'a pas décrit un fémur, on n'a pas décrit encore un bassin. Ça viendra un de ces jours, c'est sûr. Il faut rester optimiste. Mais il a un basicrâne qui est complètement en accord avec une démarche bipède. Si vous essayez de mettre ce crâne reconstitué en même position que le crâne ici sur une colonne vertébrale de chimpanzé ou de gorille, ça va être horrible pour lui. Il va regarder à ses pieds tout le temps. Il ne va pas pouvoir regarder plus loin que le bout de ses pieds, quoi. Ce qui va lui poser des problèmes. Alors, les fossiles. Les plus anciens, c'est donc celui-là le plus ancien pour le moment. On va en trouver des plus anciens, c'est sûr. Alors, attendez, quand je dis on va en trouver des plus anciens, forcément, si je vous disais que je préfère que c'est l'équipe voisine qui trouve les plus anciens, vous auriez du mal à me croire. Mais quand vous allez ramasser des champignons, vous êtes bien content de trouver vous-même les champignons et vous préférez vous les trouver plutôt que ce soit la voisine ou le voisin. Bon, c'est pareil pour nous, hein. Ceci étant, ce qui est important pour faire progresser nos connaissances, c'est d'en trouver des plus anciens. C'est ça le plus important. Après, le reste, ça fait partie, comment dire, du challenge. L'essentiel est de trouver. Finalement, tant mieux si c'est les uns ou les autres, mais l'essentiel, c'est de trouver. Et quitte à me répéter, je pense que tout ce secteur géographique très vaste, très très vaste, est un secteur dont vous entendrez parler dans la décennie qui vient. Sûrement avant, mais je suis prêt à prendre le pari que dans les 10 ans qui viennent, tout ce secteur où on ne connaissait rien va apporter un lot important de données et de fossiles. Alors forcément, il faut aller les chercher. Et aller les chercher, c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'on est dans des milieux extrêmes. Ça, c'est le premier point. C'est pas facile parce que tout le secteur que je viens de vous montrer, il y en a une bonne partie qui, politiquement, est en équilibre méta-stable. c'est comme ça. Si c'était facile, on vous en aurait parlé ici à cette tribune il y a déjà un demi-siècle. Si on ne vous en a pas encore parlé, c'est parce que c'était plus difficile. Vous savez bien qu'on est ainsi fait, on commence souvent par faire ce qui est le plus facile et on laisse derrière soi ce qui est le plus difficile à faire. Donc ce qui reste à faire n'est pas forcément le plus aisé. Mais la certitude qu'on a, c'est qu'il reste encore beaucoup à faire. J'insiste une nouvelle fois sur tous ces petits points bleus-là. Il y en a bien d'autres, hein. Il y en a bien plus que ça. Ici, on n'en a qu'au Tchad et on en a deux ou trois. J'insiste sur le fait qu'au Tchad, on a mis le premier point bleu en 1995. J'insiste sur le fait qu'en Afrique du Sud, on a mis le premier point bleu en 1924. De 24 à 95, il s'est écoulé 70 ans. Alors, je vais vous demander une chose. On va convenir de ça, si vous voulez. On se retrouve dans 70 ans, ici, pour en parler. Vous êtes d'accord? Bon. Vous êtes tous d'accord là-dessus, hein? Bon, alors moi aussi. Et à ce moment-là, moi je suis convaincu que dans ce que j'appelle l'Afrique centrale ou l'Afrique sahélienne, il y aura, je ne sais pas combien, mais il y aura beaucoup plus de points bleus qu'il y en ait en ce moment. C'est clair. Mais il faut faire du terrain. Donc, ce jeune homme-là, c'est celui que vous avez là. Alors vous me direz, oui, il n'est pas très déformé sur la photo. Hein. Il est plus déformé quand on le regarde de face, c'est vrai. Mais soyez de bonne foi. Juste un instant. Quand vous allez faire une photo, vous choisissez toujours votre meilleur profil. C'est ce qu'a fait Toumaï aussi. Il a pris son meilleur profil. Alors, c'est vrai que là, on n'a pas l'impression qu'il est si déformé que ça. Il était plus déformé qu'il n'apparaît sur cette photo. Bon. À vrai dire, je vais vous faire un aveu. Ce n'est pas lui qui a choisi son profil. C'est moi qui l'ai choisi. Donc, si coupable il y a, c'est moi. Alors, par contre, sur les images qui ont été publiées scientifiquement, vous voyez bien que là, il est très, très déformé. Là, ça se voit. Cet hominidé ancien, qui, avec ses deux autres compagnons de l'Est, Ororin et Ardipithecus Kadaba, à mon avis, mais ce n'est pas un avis partagé par tout le monde. Je suis même, pour ne rien vous cacher, sûrement très minoritaire sur le plan français. Mais je le suis moins que quand je suis parti à l'ouest pour chercher des hominidés. Là, j'étais tout seul. Là. Donc, ce n'est pas quelque chose qui m'impressionne spécialement. Ces trois formes, une à l'ouest du rift, deux à l'est, représentent pour moi un nouveau grade évolutif. C'est-à-dire, et ça c'est important pour la suite, je pense, quand on a décrit notre histoire, on a décrit d'abord le grade évolutif homo, parce que ça, on le connaissait. À partir de 1925, on a décrit un autre grade évolutif, le grade australopithèque. Alors, on peut discuter d'où on met le paranthrope. Le paranthrope, on le met dans le grade australopithèque. Et ceux-là, que ce soit celui-là, que ce soit Ardipithecus cadaba ou Aurorine, ce ne sont pas des hominidés qui appartiennent au grade Homo, ce ne sont pas des hominidés qui appartiennent au grade Australopithèque. C'est quelque chose de nouveau. Alors, je vous l'ai dit, essayez de rester le plus près de ce que l'on connaît. Personnellement, j'appelle ça, je les appelle les préhumains du Miocène supérieur, c'est-à-dire que je donne un âge, quelque chose qui est 7 millions pour le moment, 6-7 millions, qui j'espère un de ces jours va devenir 6-7-8 millions. Alors, bien que la question soit posée, je n'ai pas de réponse à ça. Est-ce que entre Toumaï à 7 millions et la dichotomie entre les chimpanzés et nous, est-ce qu'il y a encore un autre grade évolutif? J'en sais rien. Je ne sais pas vous répondre à ça. Je ne sais pas répondre à cette question. Je vais éliminer un certain nombre de questions pour tout à l'heure. Ça s'appelle le principe de précaution. Mais ce que je crois, c'est que, de fait, tous ces ancêtres-là, à mon sens, ils sont probablement dans le même grade évolutif. Probablement. C'est-à-dire que au cours de notre histoire, ce n'est pas une certitude. Mais à l'instant T, je pense plutôt qu'il y a eu ce grade évolutif-là, Toumaï, Aurorine, Ardipithèque, les hominidés du Miocène supérieur, puis après le grade Australopithecus, puis après le grade Homo. Nous sommes des représentants du grade Homo. Au passage, vous imaginez qu'on est à l'heure actuelle, on est exactement sur le plan intellectuel dans la même situation qu'on était en 1925. 24 exactement, puisque ça a été trouvé en novembre 1924 et publié en janvier 1925. On vient d'écrire de trouver quelque chose qui est nouveau. Et à partir du moment où on trouve quelque chose qui est nouveau, inattendu, ben vous allez avoir un certain nombre de turbulences. Si vous voulez vous en convaincre, faites la bibliographie autour de Raymond Dart, 1925. Replacez ça dans le contexte de l'époque. Parce que maintenant, c'est relativement facile à côté de l'époque. En 1925, il n'y avait pas les fax. Il n'y avait pas les emails. Heureuse période. Et quand Dart a écrit son papier pour Nature, il l'a envoyé à Londres. Et il y avait à ce moment-là la même chose, Nature, c'est une revue phare dans nos disciplines qui sort en kiosque le vendredi. Donc, vous êtes sous embargo scientifique jusqu'au vendredi matin, je ne sais plus quelle heure, 9h ou quelque chose comme ça. Bon. Et Dart avait fait ce qu'on fait les uns et les autres maintenant, c'est-à-dire qu'il avait donné une interview au journal de Johannesburg, qui est le Star. J'ai rencontré les gens du Star, et il leur avait parlé de sa publication, de sa découverte. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que l'article soit refusé à Nature, en première lecture. On lui a demandé des révisions. Oui, mais les journalistes étaient au courant. Et donc, les premiers qui ont... C'est un problème de nomenclature, ça. Les premiers qui ont parlé la première fois de Australopithecus africanus, c'est pas Nature. C'est le Star de Johannesburg. Et en toute logique, c'est eux qui sont, au sens du code, les premiers à l'avoir fait. Ça montre combien il faut être prudent dans ce domaine. Eh bien, à l'heure actuelle, on est exactement dans la même période. L'enfant de Tang avait créé quelques perturbations dans ce que l'on croyait savoir sur notre histoire. Eh bien, ces trois jeunes gens, Kadaba, Ororin et Toumaï, apportent aussi quelques perturbations à ce qu'on croyait savoir dans notre histoire. Alors, c'est comme tous les systèmes, il y a une période où c'est en déséquilibre et puis l'équilibre va se retrouver. Bon, il faut laisser le temps au temps, mais ce n'est pas autrement surprenant quand on parle en millions d'années, quoi, hein. Ça paraît logique. Sur cette image, à part la déformation que je vous ai déjà montrée, et vous voyez, hein, on a quand même bien corrigé ça, quoi, hein. Complètement corrigé. Ça, c'est de la technologie. Mais je veux tout de suite insister sur le fait que si on n'a pas ça, on ne peut pas créer ça. Et que pour avoir ça, il faut aller dans le désert. Non, mais ça me paraît tellement important, si vous saviez encore plus que tout ce que vous pouvez imaginer. Si on veut, alors vous allez sûrement penser que je me répète, mais le principe est simple et vous le savez comme moi. Quand on veut enfoncer un clou, on tape plusieurs fois sur le clou. Je suis en train de faire de même. Si on veut avancer dans la connaissance de notre histoire, nous, les humains, eh bien, il faut aller chercher des fossiles. Et les fossiles, on ne va pas les trouver ni dans la cour du Collège de France, ni au Jardin du Roi, ni à ceux du Luxembourg. Et il faudra de plus en plus aller les chercher dans des zones qui deviennent plus ou moins faciles d'accès. Et ça, c'est un problème. Et on peut concevoir, je le comprends, que dans de telles conditions, il y ait un certain nombre de collègues qui n'aient pas envie d'y aller. Je ne sais plus, je ne sais pas si je dois vous raconter ça, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Le jour où, avec mon équipe, on a trouvé Abel, le premier australopithèque à l'ouest du Grand Rift africain. J'étais forcément, j'étais très content. Imaginez, hein. Ça faisait 20 ans que je cherchais des champignons sans en avoir trouvé un. Et quand on est très content, on téléphone à ses proches et à ses amis. Parmi mes amis, il y en avait un au moins que vous connaissez bien, il s'appelle Yves Coppens. Il n'est pas facile à joindre au téléphone. Je l'ai eu. Il m'a dit, c'est pas vrai. Tu l'avais emmené avec toi. Non, non, mais s'il était là, je redirais la même chose. Et parmi ses proches, vous êtes assez nombreuses ici pour comprendre qu'on appelle sa mère. Et vous savez ce que ma mère m'a répondu? C'est vraiment une réponse de mère. Dis, maintenant, tu ne vas plus partir. Je suis sûr que, ici, aujourd'hui, vous pouvez comprendre cette réponse. Alors, depuis, les choses ne se sont pas améliorées. Les difficultés sont devenues un peu grandissantes dans certains secteurs. Mais on y arrivera. On y arrivera. Alors, il faut simplement être patient et laisser le temps au temps. Je crois que surtout, il ne faut pas prendre de risques inutiles. Ça ne sert à rien. Si je suis encore là, jeune comme je suis, pour en parler avec vous, après plus de 4 décennies de terrain, c'est justement parce que il n'est pas utile de prendre des risques inconsidérés. Sur cette image, je voudrais encore vous montrer la canine. C'est une canine inférieure. Regardez cette canine inférieure. Regardez comme elle est petite. Regardez la couronne comme elle est petite. Essayez d'imaginer la canine de votre chat ou de votre chien à côté. Et en plus, elle suce par la pointe. Et alors, il y a quelque chose d'extraordinaire sur le plan évolutif, c'est que regardez cette canine qui a une couronne très petite. Vous avez vu sa racine? Aucun d'entre nous, ici, dans cet amphithéâtre, avons une canine avec une racine aussi longue par rapport à la couronne. C'est-à-dire que cette canine qui a une petite couronne, elle n'est pas là simplement pour boucher un trou. Hein. Elle fonctionne. Alors, sur le plan évolutif, c'est intéressant. Parce qu'on connaît ce phénomène évolutif. On sait que l'évolution ne se fait pas à taux constant. Mais on sait que sur un organisme, les différentes parties de l'organisme n'évoluent pas à la même vitesse. Certaines parties sont en avance, évolutivement parlant, tandis que d'autres sont en retard. On appelle cela l'évolution en mosaïque. Eh bien, voilà un exemple d'évolution en mosaïque sur Toumaï et ses compagnons. Cette canine a gardé sa racine ancestrale. Par contre, sa couronne est très, très dérivée et dérivée dans le sens humain. Regardez, cette image de la même canine est encore plus belle. Vous vous rendez compte, vous avez là le bord inférieur du corps mandibulaire. Vous imaginez jusqu'où va la racine, hein ? C'est énorme. Et quand vous voyez ici, alors, ces images, soyons clairs, parce que c'est embêtant. Bon, ici, vous avez ce qui existe. Ça, c'est le fossile réel. Ici, vous avez une image scanner. Une image scanner, c'est une image de densité. Ce n'est pas une image anatomique, hein, c'est une image de densité. À partir de ces images scanner, vous pouvez reconstruire en trois dimensions. Vous voyez, là, on a reconstruit jusqu'au niveau des racines. Là, on a tout reconstruit. Et vous pouvez forcément, puisqu'on est là dans un monde virtuel, quand vous avez, c'est le cas, vous voyez que sur le spécimen, vous n'avez que la canine gauche. La canine droite, elle manque. Eh bien, la canine gauche, vous l'avez là, et en bleu, on a fait l'image miroir de la canine gauche. Et donc, ainsi, vous pouvez compléter des choses qui manquent. Alors après, vous pouvez prendre les données. Par exemple, ici, sur cette mâchoire, elle est là. Et voilà. Forcément, vu du fond de l'amphithéâtre, c'est pas très clair. On a fait des images scanner. Et à partir de ça, vous pouvez prendre... Vous numérisez toutes ces images et vous pouvez prendre les données concernant les dents. Voilà les dents. Avec leurs racines de la même mâchoire. Ce qui est très pratique pour travailler, quoi. Alors... Ça doit vous paraître très complexe. En réalité, on reçoit maintenant dans les labos de recherche des jeunes étudiants dont la compétence est telle qu'ils sont capables de faire des choses comme ça, j'allais dire presque naturellement, quoi. Ça pose pas de problème. Simple. C'est un peu plus complexe pour ceux qui sont un peu moins jeunes qu'eux. Ça fait partie de l'humour. On peut faire de la science à très haut niveau, y compris dans Nature. Puisque dans la communauté, quelques-uns, moins que les doigts d'une main, disent « Non, 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 Toumaï, c'est un chimpanzé ou c'est une paléogoriette. » Bah, quand on est dans le monde virtuel, je vous ai expliqué ça ce matin, on peut transformer. Bah, vous voyez ce qui se passe, hein ? Quand on le transforme en chimpanzé, il éclate, des parties se chevauchent. Quand on le transforme en gorille, c'est pareil. La conclusion est écrite là en haut. Hein. C'est pas un gorille, c'est pas un chimpanzé. Mais à vrai dire, avec les caractères qu'on a à côté, c'est pas une surprise. Quoi, hein. Et je veux dire, c'est important. C'est même très important. Parce que certaines affirmations pourraient laisser croire ou penser que ce que l'on fait, ça tient un peu de l'approximation. Non, non, du tout. On a reconstruit, on a pris deux opérateurs, on a fait quatre reconstructions. On a fait des traitements mathématiques après avoir mis des points repères 30 sur chaque crâne pour définir l'enveloppe crânienne. Et on s'est rendu compte que la différence entre les quatre reconstructions, c'était moins que 1%. Et moins que 1%, c'est beaucoup moins que la variation intraspécifique. Après, on fait un traitement mathématique qui est traitement, par exemple, en ACP, je veux dire que c'est quelque chose qui est connu depuis plusieurs décennies. Puis voilà ce qu'on obtient. Dont acte. Alors, après, on peut dire, je ne sais pas, on peut dire que Toumaï n'est pas un hominidé, que Toumaï est un gorille, que Toumaï est un chimpanzé, que... On peut dire tout ça, on a le droit. Mais on ne peut pas le dire n'importe où. On peut le dire dans des journaux qui sont des journaux non scientifiques où on ne fait pas la science, qui sont des journaux d'expression, d'information, ça devient beaucoup plus difficile à dire dans des magazines spécialisés. C'est tout. Pardon d'insister un peu là-dessus, mais comme je suis à peu près sûr que les uns et les autres, ou les unes et les autres, vous avez lu des choses comme ça, je tiens à ce que les choses soient parfaitement claires entre vous et moi. Et je suis prêt, après, à répondre à toutes les questions que vous aurez. C'est ce que je vous disais ce matin, à partir du basicrâne, ça c'est pareil. Si vous faites l'angle du plan orbitaire avec le plan orbitaire, avec le plan du foramen magnum, chez un sapiens actuel, c'est entre 90 et 105 degrés. On en a mesuré un certain nombre. Si vous le faites chez les grands singes, c'est toujours inférieur à 90 degrés. Celui-là, il est bipède, celui-là, il est quadrupède. Voilà un Australopithèque africanus, dont on sait par ailleurs qu'ils sont bipèdes. Bon, on est proche de 90 degrés, on en a mis un sur le dessin. Hein. Mais il y en a d'autres. Puis si vous regardez Toumaï, c'est proche de 90 degrés. Mais ce n'est pas aigu, hein. C'est pas aigu. C'est-à-dire que celui-là, il a un arrière-crâne qui est en accord avec la bipédie. Bon, c'est comme ça. Voilà les images de ce que vous avez devant vous. Aurorine, pour moi, c'est le même grade évolutif que Toumaï. Je ne suis pas certain que c'est un point de vue partagé par les parents d'Aurorine, mais j'ai sûrement tort, mais n'empêche que je pense que c'est le même grade évolutif. Aurorine est clairement un hominidé. Un des problèmes est que, enfin, vous voyez bien, quoi. Aurorine, il y a fémur, morceau, fragment de mandibule, il est là, puis il n'y a pas de crâne. Pour le moment, Toumaï, on a un crâne, c'est difficile de comparer avec Aurorine, quoi. Hein. C'est comme ça. Alors, la conclusion, c'est quoi ? Ben, il faut trouver plus d'Aurorine, puis il faut trouver plus de Toumaï. Voilà. C'est comme ça. C'est de la faute ni aux parents d'Aurorine, ni à ceux de Toumaï. Il faut encore faire plus de terrain. Mais c'est clair que ce jeune Kenyan est un hominidé. Il a des caractères sur les dents qui semblent le distinguer de ce que l'on connaît de Toumaï. Ce n'est pas autrement surprenant. Entre le Kenya et le Tchad, il y a 2500 kilomètres. Hein, donc, ce n'est pas étonnant. Ce n'est sûrement pas la même province biogéographique. Sûrement pas. C'est un hominidé. Quels sont les rapports entre Aurorine et Toumaï ? Ben, je vais vous faire un aveu. J'en sais rien. Sinon, qu'à partir des caractères, à partir de ce que l'on sait, je pense que ça va dans le même grade évolutif. Ça fait partie du même paquet évolutif. À mon avis, on n'en sait pas encore. On n'a pas encore assez de matériel pour en dire plus. Ardipithecus, Aurorine a 1 million d'années de moins. 1 million d'années de moins, c'est pas mal. 6 millions. Ardipithecus Kadaba, celui-là est éthiopien. Alors, voyez ce qu'on a comme matériel, quoi, hein. Difficile de comparer ces trois formes entre elles. Mais celui-là, il est éthiopien, c'est-à-dire pas très loin du Kenya. On a des restes entre 5 millions 2 et 5 millions 8. Aurorine est à 6 millions, c'est-à-dire que c'est pas très loin l'un de l'autre. Ils sont proches dans le temps et ils sont proches géographiquement. Bon. Dont acte. Pour le moment, là encore, les rapports entre les uns et les autres, c'est difficile à préciser. Moi, ce que j'ai lu à l'heure actuelle, précisant les rapports de ces fossiles entre eux, ça a été écrit par des Homo sapiens qui souvent n'avaient vu ni Kadaba, ni Aurorine, ni Toumaï. Je pense qu'il est urgent d'attendre et de trouver du nouveau matériel qui pourra être comparé. À nouveau, je peux comprendre votre attente. On arrive au grade australopithèque. C'est tout ce qu'on a dit, des incisives et des canines petites, une première prémolaire inférieure sans facette aiguisoire, mais c'est déjà le cas chez ceux-là, de l'émail plus épais que chez ceux-là, un cerveau qui est relativement petit pour une face qui est assez grande et un trou occipital qui est en position assez antérieure liée à la bipédie. Les poids, les âges, on a déjà vu ça. Le plus ancien d'entre eux, c'est l'Australopithèque du lac, Anamensis, qui est aussi le plus primitif. Le mieux connu, c'est celui où se trouve Lucie, c'est Australopithecus afarensis. Je n'insiste pas, on en a parlé. Entre afarensis et Anamensis, eh bien, regardez, voyez Anamensis avec la partie antérieure de cette mandibule, de sa mandibule très fuyante vers l'arrière, beaucoup plus que chez afarensis. Caractère qui est plus primitif. Mais c'est normal, Anamensis est le plus ancien. Alors après, à l'heure actuelle, on discute sur est-ce que afarensis est à l'origine de quoi, de qui ? Globalement, on pourrait opposer un certain nombre de collègues, dont des Américains, qui pensent que afarensis est ancestral par rapport à beaucoup de choses pour la suite, à des gens comme Yves Coppens qui pensent que afarensis est plutôt latéral. Bon, et je vais avoir une réponse de Normand. Je pense que le grade australopithèque, c'est dans ce grade-là qu'il faut enraciner le genre homo. Le genre homo sort des australopithèques. Alors, duquel ? Alors, si vous voulez que je sois provocatif, comme diraient nos amis anglophones, je vous dirais, et pourquoi pas d'Abel ? Parce que dans le fond, Bahr el-Ghazali que je vous ai montré, il a une mandibule qui est très droite, avec une symphyse qui est très dérivée, il est déjà très humain. Beaucoup plus que Lucie, par exemple. Beaucoup plus. Mais je crois que pour écrire ça et pour défendre une telle chose, il faut trouver d'autres matériels. Voilà Lucie, que vous connaissez. Le kényanthrope, j'en ai parlé. Écoutez, le fossile ici d'origine, l'image d'origine, se passe de commentaires. Regardez, c'est une marqueterie de petits morceaux d'os avec sûrement plus d'argile qu'il n'y a d'os. Dans de telles conditions, il me semble vraiment difficile de pouvoir apprécier la forme exacte de ce crâne. Il faut retrouver d'autres matériels. L'Australopithèque surprise, Gary, c'est celui où il y a les traces de boucherie. Ceci étant, il a une mâchoire avec des dents très fortes, très développées, et avec une denture antérieure, vous voyez, réduite. Chose qui rappelle les robustes. On trouve des traces de boucherie sur les os, on trouve des artefacts. Est-ce que c'est lui l'artisan ? Si c'est lui l'artisan, eh bien, il a une capacité cérébrale qui est petite. La discussion est ouverte. Alors, après, quand vous prenez la littérature, vous pouvez arriver à trouver toutes les possibilités possibles entre les diverses espèces pour les relier les unes aux autres. Alors, si vous voulez bien, je crois, et encore, il n'y a même pas un consensus général là-dessus, restons-en au fait que vous avez un paquet là. Enfin, moi, je vais vous délivrer ce message. Et j'assume. Vous avez un paquet qui comprend, un ensemble qui comprend le sahélanthrope, aurorine, l'ardipithèque, c'est le grade évolutif le moins dérivé, le plus primitif. C'est sûrement de ce groupe-là qu'est né les australopithèques. Et des australopithèques sont nés un jour le genre homo. Le genre homo, on en parlera l'année prochaine. Justement, voilà l'australopithèque tchadien. J'insiste à nouveau sur le fait, regardez comment la face antérieure est plate, complètement plate, complètement. Il est complètement tronqué, il a une face plate. Et lui, il n'est pas déformé. Bon. L'Africanus, bien, c'est l'enfant de Tang au départ, c'est Mrs. Bless, très célèbre. Il y a beaucoup de spécimens. C'est un candidat potentiel, possible, à la fois pour les paranthropes d'un côté, c'est ce que pensent certains, ou pour le genre homo, c'est ce que pensent d'autres. Le débat est ouvert. On peut imaginer qu'avec la découverte là du nouveau squelette, quand il va être étudié, ça va nous donner de nouveaux arguments qui vont permettre peut-être de choisir une voie avec plus de sécurité, plus d'arguments. Parmi les plus célèbres Australopithecus africanus, mis à part l'enfant de Tang, il y a Mrs. Pless, c'est un crâne complet sans dents. Les paranthropes, souvenez-vous, on a vu la dernière fois, il y a vers 2,5 millions d'années, un événement climatique qui va vers paysage plus ouvert, plus ouvert, plus ouvert. C'est à ce moment-là que naissent les paranthropes et le genre homo. Paranthropus, c'est au minimum un grade évolutif aussi. Des hominidés qui sont adaptés à des milieux ouverts et peut-être avec une nourriture qui n'est pas toujours de très bonne qualité. Alors que les homos à côté qui apparaissent au même moment sont sûrement plus opportunistes. On en reparlera. Voilà les trois paranthropes décrits à l'heure actuelle. Boisi est en Afrique orientale, Ethiopicus, comme son nom l'indique, est en Afrique orientale, Robustus est en Afrique du Sud. La question est, ces outils sont-ils fabriqués par les paranthropes ou par le genre homo? Vous imaginez bien que la première fois qu'on s'est posé la question, on a répondu que c'était par le genre homo, c'était rassurant. On est beaucoup plus prudent maintenant. Et maintenant, on a, enfin, c'est clair, les paranthropes ont fabriqué sûrement des outils au même titre que le genre homo. Regardez les dents qu'ils avaient et surtout regardez combien est réduite la dentition antérieure, c'est-à-dire combien est réduite la canine et les incisives. Voilà le paysage où a été trouvé le Paranthropus boisei en Tanzanie, dans les gorges d'Olduvai. C'est un très, très, très joli endroit. Le Paranthropus ethiopicus, c'est le plus ancien connu. au moins il est ancestral à Boisei et peut-être à l'autre aussi. Le problème des relations entre les trois, il s'agit de déterminer si on a des caractères homologues ou si on a des évolutions de l'évolution parallèle. Ce n'est pas toujours facile. Se pose ensuite le problème de un ou deux genres. Est-ce qu'on n'a qu'un seul genre, le genre Australopithecus, ou est-ce qu'on a deux genres, Australopithecus et Paranthropus? À l'heure actuelle, c'est quelque chose qui est discuté. Personnellement, je pense que je serais plus partisan de deux genres. Ça, c'est l'équivalent de ce que je viens de dire. Et ça, c'est le bouquet final où vous avez à peu près toutes les possibilités de relations. Ce qui montre à l'évidence qu'il nous reste encore beaucoup à faire, parce que plus on réduira le nombre de possibilités et plus on aura avancé dans la connaissance. Je suis allé volontairement très vite parce que je vous avais promis que vous y aurez un temps pour les questions. Maintenant, c'est le temps de vos questions.